France Inter.
Aujourd'hui, FNSEA, les terres du pouvoir, raconté par
Alexandre Beika, chercheur en sciences politiques au CIRAD, à l'UMR Moïsa, qui est spécialisé sur la durabilité des systèmes alimentaires.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Mars 1946, la France, profondément affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, se relève difficilement. Le pays lutte pour nourrir sa population. Juste après l'adoption de la loi du 12 mars rétablissant la liberté syndicale, la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, voit le jour. Lors de son congrès fondateur, dans la nuit du 13 au 14 mars, la FNSEA, affiliée à la Confédération générale de l'agriculture, la CGA, élit donc Eugène Forget comme premier président, qui proclame alors, je fais le serment de l'unité paysanne, je fais le serment que plus jamais chez nous, on ne pourra exercer en même temps un mandat syndical et un mandat politique. Les agriculteurs présents adoptent ce serment à main levée qui deviendra l'engagement central de la FNSEA pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Avant cela, en 1940, le régime de Vichy avait dissous toutes les organisations agricoles existantes pour en former une seule, la Corporation Paysanne. Cette structure était fondée sur des principes anticommunistes, antisocialistes et la glorification de la paysannerie, poursuivant les idées de la Société des agriculteurs de France et alignée sur la vision du maréchal Pétain qui avait déclaré à Tulle en 1941 « La France redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une nation essentiellement agricole, elle restaurera les antiques traditions artisanales. » Pétain, souvent appelé maréchal des paysans, utilisait l'image du paysan comme un pilier de sa propagande. Cependant, la Corporation Paysanne fut largement contestée sur le terrain, notamment par des résistants et des agriculteurs mécontents. Dès 1943, un mouvement de résistance s'organise dans la clandestinité, dirigé par le socialiste François Tanguy Prigent, ancien leader de la Confédération Nationale Paysanne, qui fonde la CGA. Après la dissolution de la Corporation Paysanne à la Libération et la création officielle de la FNSEA le 14 mars 1946, donc, comme une des branches de la CGA, devenue organisation officielle en mars 1945, un conflit tenace éclate entre les deux entités. À partir de 1948, la CGA n'a plus de pouvoir, elle suivra jusque dans les années 1960. La FNSEA, elle s'imposera progressivement, soutenue par la nouvelle génération de la jeunesse agricole chrétienne et du Centre national des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, avec plus de 212 000 membres, la FNSEA est le syndicat dominant dans le monde agricole français. Et c'est son histoire que nous allons vous raconter.
À Paris, s'est ouvert le Congrès général de l'agriculture, où M. Tanguy Prigent, ministre de l'Agriculture, et le président du gouvernement, M. Gouin, sont venus attester l'intérêt que prend l'État à la question paysanne. Devant les 320 délégués, le président Gouin a fait appel aux réserves d'énergie, de volonté et de courage de la paysannerie pour gagner le combat de la résurrection française.
Voilà, nous sommes en 1946, le Congrès général de l'agriculture, année donc de la création de la FNSEA. Bonjour Alexandre Beika.
Bonjour.
Vous avez consacré une thèse sur le travail de représentation de ce syndicat, la FNSEA. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser donc à ce premier syndicat agricole français ?
Écoutez, deux choses. La première, c'est une question relative à la représentation politique des catégories populaires, dans un moment comme maintenant où le champ politique est largement capté par des élites bourgeoises et largement fermées. Et puis, sur les questions agricoles et environnementales, la FNSEA est un acteur central de l'agriculture française et européenne. Et on la caricature souvent, à tort ou à raison, mais c'est nécessaire de la comprendre pour savoir comment les choses peuvent évoluer.
Qu'est-ce qu'il est nécessaire de comprendre, selon vous ?
Alors, comprendre pourquoi elle est toujours dominante dans le milieu agricole, quels sont les ressorts de son pouvoir et qu'est-ce qui change aussi sur le moyen et sur le long terme.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé agriculture ces derniers mois en France, avec évidemment ce mouvement de colère de début 2024, une médiatisation d'ailleurs qui a profité visiblement à la coordination rurale, qui a effectué fin janvier une percée sans précédent à l'occasion des élections professionnelles. Malgré cela, la FNSEA reste largement majoritaire. Elle organise organise d'ailleurs en ce moment même et pour 3 jours son congrès à Grenoble. Avant de comprendre justement quels sont les enjeux aujourd'hui de ce syndicat et son rôle évidemment fondamental au cœur de la crise environnementale et agricole, petit retour en arrière pour comprendre les racines du mouvement. Dans quel contexte naissent les syndicats agricoles, Alexandre Beika?
Alors, la présentation que vous avez faite, Mathieu, est très intéressante au sens où elle dit quelque chose des singularités de ce syndicalisme agricole, à savoir les liens avec l'État et une forme d'unité qui prédate en fait du milieu du XXe siècle et qui remonte au XIXe siècle. Le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, c'est une période de fondation de l'agriculture contemporaine qui se développe dans le sillage de la révolution industrielle, avec un ensemble d'innovations qui bouleversent les manières de travailler et de s'organiser.
Donc c'est la mécanisation, la chimie par exemple, l'agronomie, tout ça, ça fait partie de ce bouleversement de l'agriculture à ce moment-là?
Oui, exactement. Les premières moissonneuses batteuses, les machines à traire, les engrais chimiques, les pesticides c'est un peu plus tard, mais les semences sélectionnées, les races sélectionnées, etc. C'est à cette époque-là que ça arrive. C'est aussi une époque où les infrastructures de transport permettent le commerce à longue distance et on voit apparaître la notion de marché national, marché mondial. Et on voit aussi apparaître les premières politiques agricoles, sachant que jusque-là, l'État s'occupait assez peu d'agriculture. Donc c'est la constitution d'un secteur agricole et c'est aussi la constitution d'un ensemble d'institutions pour maîtriser ces techniques nouvelles.
Et la FNSEA, elle est liée directement à ça, en fait. C'est ça ce que vous nous dites, à toutes ces évolutions du monde agricole.
Elle apparaît, les premiers syndicats apparaissent dans cette période-là. C'est un peu des coopératives au début, on appelle ça des syndicats boutiques, qui aident les agriculteurs à acheter des semences, des engrais en vérifiant la qualité, en diminuant les prix. Et au début, c'est des syndicats qui sont créés sur des bases locales, qui sont patronnés par des élites sociales de gauche ou de droite, parce que c'est aussi une période où les agriculteurs, avec le suffrage universel masculin et en métropole, mais quand même, représentent un électorat important à capter. Et sur ces bases locales se créent des fédérations nationales, où le syndicalisme n'est pas très bien différencié des coopératives, des organismes de crédit, etc. Et on arrive au début du XXe siècle avec une grande fédération nationale de gauche, une autre de droite, qui font à peu près la même chose.
Ouais. Et donc les deux guerres, évidemment, Première et Deuxième Guerre mondiale, et l'arrivée donc en 1946 de la FNSEA, où il s'agit évidemment à ce moment-là de reconstruire la France et de la nourrir, hein, c'est ça l'enjeu majeur.
Oui, il s'agit de la nourrir. Alors, pour ça, l'État cherchait à intervenir. L'État avait aussi cherché à intervenir avant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier à partir des années 30, pour organiser les marchés agricoles. Et ces deux grandes fédérations avaient été unifiées à cette période-là. Donc, on peut lire une continuité dans la période des années 30, années 40, avec une organisation par l'État. Cela étant, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour prendre en compte les fortes tensions aussi que vous avez mentionné tout à l'heure, l'État recrée une forme de pluralisme, de représentation des agriculteurs, avec la FNSEA, mais aussi les coopératives, le Crédit Agricole, les chambres d'agriculture et les jeunes agriculteurs, qui sont les branches de la Confédération Générale de l'Agriculture. Et progressivement, la FNSEA réussit à s'imposer comme représentant principal des pouvoirs publics à ces différentes organisations.
Et c'est quoi son modèle d'ailleurs? Avec quoi elle s'impose précisément? C'est quoi sa philosophie dès le départ?
La philosophie de la FNSEA dès le départ. Écoutez, c'est pas forcément facile à dire, au sens où la FNSEA, c'est pas une organisation qui se fonde sur un corpus de doctrine comme d'autres organisations. Vous avez mentionné le serment de l'unité paysanne. Au fondement de la doctrine de la FNSEA, il y a l'idée qu'elle représente tous les agriculteurs, qu'elle est le vrai syndicat unique. Il y avait aussi eu des syndicats ou des mouvements de contestation de la FNSEA, mais qui n'ont pas duré longtemps. S'il y avait peut-être un fil rouge à garder, c'est ça, c'est l'idée de seul syndicat qui compte vraiment dans l'agriculture.
Mais est-ce que dans les faits, elle représente vraiment dès le départ tous les agriculteurs, où il y a déjà finalement ce modèle au service des grandes exploitations et des puissances industrielles? Est-ce que c'est clairement affiché dès le départ, ça ou pas?
Alors, les puissances industrielles, au départ, sont pas encore tout à fait là. Le développement de l'agroalimentaire se passe plus tard. Et puis, bien sûr, aucune organisation ne représente tout le monde. Donc, elle représente ses membres et les membres les plus puissants en son sein. Au départ, c'est beaucoup les grands céréaliers, qui sont les catégories d'exploitants les plus établies, les plus puissantes aussi à cette époque-là. Et puis, progressivement, avec le développement de l'élevage, émerge une génération de jeunes agriculteurs, jeunes éleveurs, que vous avez mentionnés, et qui se font compétition en interne à la FNSEA, jusqu'aux années 60, où ils arrivent à un compromis politique, là aussi, où l'État joue son rôle. Quoi.
Mais est-ce que l'ADN de la FNSEA, c'est justement de s'adresser d'abord et avant tout aux exploitants agricoles, aux propriétaires terriens, ou est-ce qu'il faut être plus nuancé dans cela, dans cette présentation?
J'aurais tendance à suggérer qu'on gagne à être plus nuancé. C'est-à-dire que c'est quand même une organisation de masse qui vise à capter beaucoup d'agriculteurs. Dans sa doctrine, il y a l'idée de... Bon, elle varie quand même sa doctrine, hein, mais l'idée quand même d'accompagner le progrès agricole, économique. Et donc évidemment, ça favorise quelque part les gros agriculteurs. Mais il y a une dimension sociale qui est présente, améliorer le revenu des agriculteurs, améliorer les conditions de travail... Bon, encore aujourd'hui, c'est un métier difficile, mais à l'époque, c'était très compliqué.
Ouais. On dit que ce syndicat est plus celui des chefs d'entreprise que des paysans. Est-ce que ça a été le cas aussi dès le départ ou pas? Ou est-ce que là aussi, on est caricatural en le disant?
Je pense qu'on est un petit peu caricatural. Enfin, c'est vrai et faux. Alors, là, vous m'invitez à rentrer dans la complexité des rapports de force internes à la FNSEA.
Et tout ça en peu de temps. Alors,
tout ça en peu de temps.
Le challenge est encore plus important.
Il y a ces deux lignes qui coexistent pour dire très très vite. Voilà, les organisations internes à la FNSEA qui ont le plus de pouvoir, c'est les organisations par produit, les producteurs de blé, les producteurs de lait, etc. Et dans ces organisations-là, la priorité est donnée au prix, aux revenus, etc. Mais il y a aussi, dans le rôle qui est joué par la FNSEA, en particulier à partir des années 60, l'idée d'accompagner la restructuration permanente du secteur agricole, l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la taille des fermes, mais en faisant ça de façon négociée, et avec un accompagnement d'ordre un peu social. Voilà.
Comment la FNSEA va s'immiscer également dans les affaires de l'État, en entamant ce qui est décrit comme une politique de cogestion? Comment ça démarre en fait réellement ça?
Alors, c'est une notion qui s'installe à partir des années 60, et le début des années 60, c'est un contexte très particulier. C'est le début de la politique agricole commune, c'est le début de la Ve République aussi, qui a une ambition de modernisation du secteur, et s'établissent plusieurs compromis, plusieurs alliances qui sont encore structurantes aujourd'hui. Une alliance entre l'État et la FNSEA pour gérer cette politique de modernisation, entre guillemets, ensemble, et une politique qui donne beaucoup de pouvoir à la FNSEA. Et puis, en interne à la FNSEA, un compromis entre les jeunes éleveurs et les grands céréaliers, les jeunes éleveurs gagnant le pouvoir politique et les céréaliers gardant la main sur les affaires économiques, ce qui veut dire aussi la distribution des aides de la PAC.
Donc c'est vraiment les années 60 avec la loi d'orientation agricole qui va vraiment donner le coup d'envoi de cette cogestion.
Oui, c'est un moment fondateur, les années 60, et c'est aussi un moment où les syndicalistes agricoles FNSEA commencent à exercer beaucoup de pouvoir dans la gestion des politiques agricoles au niveau national, mais aussi au niveau local.
Alexandre Baykal, le modèle de la FNSEA face aux problématiques environnementales, on va en parler évidemment dans un instant, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de La Terre au Carré et sur franceinter.fr.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Cela fait plus de 70 ans qu'elle défend les paysans.
Tout ce gigantesque déploiement de moyens afin de montrer la puissance de la FNSEA.
De manifestation en manifestation. La FNSEA porte la colère du monde agricole et met la pression sur l'État.
Ça suffit ! Révoltez-vous !
Une puissante organisation qui revendique 212 000 adhérents. Aux méthodes parfois musclées.
La FNSEA, c'est une machine de guerre. En 24 heures, ils sont capables de mobiliser et de bloquer tout le territoire s'ils le souhaitent.
Extrait d'un complément d'enquête en mars 2024 autour de la FNSEA. C'est le thème de la Terre au carré cet après-midi avec vous, Alexandre Obeika, qui est chercheur en sciences politiques et l'auteur d'une thèse sur le premier syndicat agricole de France. Une machine de guerre, la FNSEA, vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Oui et non, c'est un syndicat très organisé, avec des dirigeants qui sont extrêmement expérimentés, qui sont très formés à la fois à des registres experts, techniques, c'est des gens qui ont appris le droit, l'économie, qui savent parler avec des préfets, parler avec des politiques, et qui maîtrisent aussi un registre protestataire, organiser des manifestations, ils font ça depuis leur plus jeune âge. Après, machine de guerre, c'est une représentation qu'on en a, qui est pas...
C'est-à-dire cette capacité de mobilisation assez rapide.
Oui, après, c'est une machine de guerre un peu moins puissante que par le passé, elle a moins d'adhérents, elle n'a pas forcément toujours envie non plus de bloquer le territoire, elle préfère négocier des choses dans les bureaux, c'est plus efficace d'une certaine manière.
On l'a vu d'ailleurs avec la colère de 2024, c'était un petit peu ce qui caractérisait ce mouvement.
C'est très intéressant ce mouvement, parce que il y a un ensemble de revendications qui ont été portées par la FNSEA en janvier 2024, qui sont des choses qu'elle avait en fait déjà négociées dans les mois précédents. Quoi. Et le mouvement qui s'est déclenché, elle y a participé, mais un des problèmes pour la FNSEA, c'était de négocier des choses supplémentaires qui satisfassent la colère qui s'exprimait. Et elle était, à mon avis, un peu en peine à formuler des choses nouvelles, voilà, à répondre aux demandes des agriculteurs, sachant qu'elle avait déjà obtenu des choses sur la taxation du gazole non routier, par exemple, ou sur des mesures d'urgence.
Et pour le coup, c'est les voix de la coordination rurale qu'on a plutôt entendues, d'ailleurs, en tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Oui, alors...
Et c'est ce que reflètent aussi les dernières élections des chambres agricoles ?
Oui, oui, tout à fait, la coordination rurale a pris beaucoup de place, avec ce paradoxe que son discours est assez similaire à celui de la FNSEA. Les revendications qu'elle a portées sont un peu les mêmes. Il y a une inflexion importante dans le discours qui est que la coordination critique énormément la FNSEA, la dénonce comme inefficace, voire corrompue, etc. Mais sur le fond, je crois que la FNSEA ne sait pas très bien ce qu'on lui reproche.
On y reviendra tout à l'heure. Alexandre Obeika, l'écologie et l'agriculture durable, c'est évidemment un thème central pour la Terre au carré, et c'est intéressant de voir justement si ces notions ont leur place au sein de la FNSEA. Comment le syndicat, vous qui l'avez étudié, s'empare-t-il des questions environnementales exactement ?
Oui,
est-ce que c'est un sujet très marginal, ou est-ce qu'on en parle quand même ?
Alors, un mot quand même sur le discours de la FNSEA en général, sa doctrine. Elle met l'accent sur les notions de l'agriculteur comme chef d'entreprise, de agriculture comme activité de production, économie, filière, revenu. Donc il y a assez peu d'environnement dans ce discours général. Et puis, elle prétend représenter tous les agriculteurs, et pour ça, elle s'interdit de dire des choses sur les manières de produire. Elle dit c'est bien si c'est rentable.
Voilà. Ouais. Petite parenthèse là-dessus, quand vous dites elle représente tous les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a cette image effectivement de grands exploitants, mais au sein même de la FNSEA, il faut peut-être leur préciser, on a aussi des petites et moyennes exploitations, et même des producteurs bio d'ailleurs.
Alors oui, il y a une vraie diversité interne à la FNSEA. Souvent, on caricature les représentants de la FNSEA comme des très grands exploitants. En fait, c'est assez faux. Sur la base des études que j'ai pu faire, les très grands exploitants ne sont pas intéressés par la FNSEA, qui ne défendent pas nécessairement leurs intérêts. Les tout petits exploitants ne sont pas du tout non plus défendus par la FNSEA. Et il y a une base encore importante d'agriculteurs moyens, moyens gros, en termes de dimension économique, qui sont présents. Quoi.
Enfin, sauf qu'on a quand même Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA, qui est quand même l'agro-businessman, avec une exploitation de 700 hectares en Seine-et-Marne, président du conseil d'administration du groupe Avril, l'un des plus importantes sociétés du secteur des oléagineux, qui regroupe des marques comme Puget et Le Sueur. Donc là, on est quand même dans la super grande exploitation.
Oui, oui, entièrement d'accord. Alors, l'exploitation d'Arnaud Rousseau est effectivement très grande et largement en décalage par rapport aux moyennes, mais y compris des adhérents de la FNSEA. Et le fait qu'il soit aussi président du groupe Avril, alors c'est une autre chose, mais
c'est un peu problématique, ça pose question.
Oui, oui, bien sûr, ça pose question sur
les conflits d'intérêts, tout simplement, non ?
Oui, et sur parce que le groupe Avril est une émanation d'une branche de la FNSEA historiquement, et la question se pose maintenant de savoir si la FNSEA contrôle Avril ou si Avril contrôle la FNSEA. Et il y a possibilité de penser que c'est plutôt le deuxième.
Alexandre Lebecca, revenons aux questions environnementales. Le discours public affiché, vous le dites dans un texte d'ailleurs, prend en compte ces questions-là, mais en pratique, la posture reste sur la défensive. Pourquoi exactement ?
Alors, de manière générale, si on prend une focale économique, l'environnement est, historiquement à la FNSEA, plutôt pris comme une contrainte, un problème, quoi. Ça peut être vu comme une opportunité économique, et la FNSEA a soutenu un ensemble de labels, agriculture raisonnée ou actuellement le haute valeur environnementale, dont les détracteurs diraient que c'est des labels pas très exigeants. Et l'environnement aussi, dans le discours de la FNSEA, est pris souvent comme un peu bouc émissaire pour gérer les tensions internes. Quand il y a des tensions entre céréaliers et éleveurs, comme maintenant il y a des tensions entre la personnalité d'Arnaud Rousseau, par exemple, et la base de la FNSEA, qui a des caractéristiques un peu différentes. Voilà, il y a des tensions qui s'expriment, des arbitrages sont pris, et ensuite, pour dire qu'on est tous ensemble, la FNSEA tape en gros sur l'État et sur l'environnement. Ça, c'est facile.
Mais quand on va sur le site internet de la FNSEA, on trouve des commissions thématiques permanentes, par exemple, sur les questions d'agriculture biologique, les territoires, l'environnement. Donc, ces commissions, elles existent, mais elles sont représentées par qui ? Elles fonctionnent comment exactement ?
Alors, c'est des commissions qui fonctionnent avec des agriculteurs adhérents comme les autres. C'est des commissions qui ont un pouvoir très limité historiquement dans la FNSEA. Le pouvoir est détenu par les commissions économiques, par production, lait, viande, etc. L'environnement était plutôt investi par les producteurs de porc qui voient l'environnement comme une contrainte, en particulier
en Bretagne.
Oui,
c'est pas les premiers écolos de France, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Par contre, il y a aussi dans les commissions environnement des gens, des agriculteurs qui sont parmi les plus diplômés. Il y a aussi pas mal de femmes, dans ce que j'ai pu voir. Et c'est une commission qui prend de plus en plus de place, toujours une place mineure, mais on a pu voir avec la précédente présidente, Christiane Lambert, qui a été présidente de 2017 à 2023, et qui a fait une partie importante de sa carrière syndicale sur les questions environnementales, que c'est un enjeu qui devient majeur.
On va l'écouter justement, extrait du compte Facebook d'ailleurs de la FNSEA, c'était en octobre 2021. Christiane Lambert.
Il est très important pour la FNSEA de dire tout ce que les agriculteurs font en matière environnementale. Que ce soit pour l'atténuation, l'adaptation, mais aussi la recherche de solutions pour la lutte contre le changement climatique. Beaucoup d'agriculteurs ont déployé beaucoup d'actions, c'est assez peu connu, mais c'est important de le dire. Plus que jamais, biodiversité, agriculture, climat font bon ménage sur le terrain dans les exploitations agricoles.
Christiane Lambert, c'est quoi ce qu'on entend ? Ce sont des éléments de langage ? Vous dites que ça reste un sujet ultra marginal quand même au sein de la FNSEA, alors que c'est évidemment aujourd'hui pour l'agriculture un sujet majeur, central.
Alors il y a deux choses. Quand même, Christiane Lambert a porté ces enjeux-là, a réussi à faire adopter un rapport d'orientation en 2020 qui présente le climat comme une opportunité pour l'agriculture, ce qui était une petite révolution quand même en interne à la FNSEA, où il y a encore des climato-sceptiques, où cet enjeu est quand même effectivement très, très, très difficile. Donc c'était un signe aussi qu'il existe cette sensibilité en interne à la FNSEA. Après, c'est pas une organisation monolithique, et sur un ensemble de sujets, elle a des pratiques effectivement très anti-environnementales, très pro-pesticides, sur les algues vertes, sur l'irrigation, sur le soutien à la bio, ça a été plutôt une posture défensive pendant longtemps. Quoi.
Et donc, ça veut dire qu'il y a des tensions en interne sur ces questions-là ? C'est ce que vous laissez aussi entendre en filigrane ou pas ?
Ça veut dire que il y a une conscience quand même des enjeux, qu'il y a des débats internes sur la manière d'y répondre. Il y a aussi un élément que je voulais souligner qui est que les techniques agronomiques vertueuses sont connues, enfin elles sont diffusées dans les journaux de la FNSEA au niveau départemental.
Oui.
Elles sont évaluées à l'aune de leur performance économique et de leur...
Donc le productivisme toujours ?
Oui, oui, c'est une focale productiviste, mais qui est quand même conscient de ces enjeux. Voilà, ouais. C'est pas un enjeu absent, qui est naturellement toujours subordonné aux questions économiques, mais ce qui peut se comprendre aussi, étant donné la fragilité des exploitations et de certaines filières.
Mais est-ce qu'il y a un manque d'expertise spécifique sur le sujet de l'environnement aussi, qui pourrait expliquer qu'à la FNSEA, on s'y intéresse aussi peu finalement ?
Effectivement, la FNSEA n'est pas particulièrement en avance sur des organisations concurrentes pour proposer des services aux agriculteurs, par exemple du conseil juridique sur les questions environnementales. Des cabinets juridiques, voilà, peuvent avoir de l'avance. Bon, mais voilà, c'est à mon avis un sujet qui monte lentement, avec du retard, et auquel les agriculteurs sont sensibles, d'autant plus qu'ils peuvent être dans des filières en difficulté économique.
C'est ça, ils sont souvent aux avant-postes aussi hein, des changements. On va en parler avec vous dans un instant, et puis vous répondrez aux messages qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
En ce dernier jour de 2024, en me retournant, je fais le constat que cette année agricole a été bien difficile. C'est près de 4 premiers ministres qui se sont succédés pour tenter d'apporter des réponses. Et si des progrès ont été enregistrés, faisons le constat que le changement de logiciel que nous attendions n'est pas encore au rendez-vous. Avec la FNSEA, vous pouvez compter sur nous pour continuer à porter le goût d'entreprendre dans des territoires vivants et dynamiques.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, Alexandre Obeika, le goût d'entreprendre, ça résume bien finalement l'état d'esprit. Hein. Vous parliez du chef d'entreprise, c'est ça qui reste dans l'ADN quand même de la FNSEA toujours.
Oui, c'est un registre qui est là et qui ne va pas bouger. Après, qu'est-ce que ça veut dire le goût d'entreprendre? Ça veut dire plusieurs choses potentiellement. Quoi. Et la FNSEA, voilà, peut être en difficulté à préciser ce que ça peut vouloir dire et dans quelle mesure c'est utile à l'ensemble des agriculteurs ou au moins aux grandes filières agricoles, dans quelle mesure le discours d'Arnaud Rousseau par exemple parle aux éleveurs, éleveurs laitiers, éleveurs bovins qui sont en difficulté structurelle. Mm-hmm. Il me semble que c'est une des questions qui doit être traitée dans le congrès aujourd'hui.
Et qui sont face aussi au changement climatique hein.
Qui sont face aussi au changement climatique.
Et à l'effondrement de la biodiversité. Tout ça, ce sont des réalités dans la vie des paysans aujourd'hui. Et on a quand même le sentiment que la FNSEA ne réagit pas beaucoup quand même là-dessus.
Effectivement, depuis 2 ans et la prise de pouvoir d'Arnaud Rousseau en interne à la FNSEA, le discours sur la prise en compte des enjeux environnementaux est quand même revenu largement en arrière et est très faible. Enfin, entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas tellement d'environnement là-dedans. Quoi. Et dans les propositions aussi que la FNSEA a apportées lors des manifestations de l'année dernière ou lors de la discussion du projet de loi dans les nations agricoles, en fait, c'est beaucoup des régressions par rapport à l'environnement, ouais. Plus de pesticides, etc. Et plus un évitement des enjeux environnementaux.
Ça, en ce moment, donc, la FNSEA est réunie à Grenoble jusqu'à demain jeudi. La ministre de l'Agriculture sera d'ailleurs demain à Grenoble. C'est quoi l'enjeu de ce congrès de la FNSEA, alors même qu'il y a eu quand même un recul historique au niveau des élections des chambres d'agriculture en janvier dernier? Il y a quand même quelque chose de... C'est un tournant là, dans la vie du syndicat ou pas?
Alors, on va voir si c'est un tournant ou pas. En tout cas, c'est un moment historique assez particulier au niveau politique. Les manifestations de 2024, que ce soit début ou fin 2024, n'ont pas vraiment été contrôlées par la FNSEA. Et on a vu ces résultats aux élections professionnelles en janvier, qui sont, de mon point de vue, dans la continuité de ces mobilisations et qui sont un avertissement assez fort à la FNSEA, que ce soit dans les départements où elle a perdu la majorité, mais aussi dans les départements où elle reste majoritaire, où la participation a été en baisse.
Mais comment vous l'analysez au fond ce recul, même si le syndicat reste majoritaire aujourd'hui, il y a quand même un recul, il y a quelque chose qui a été énoncé très clairement aux dernières élections. Comment vous l'analysez, vous?
Il me semble qu'il ne faut pas s'attarder aux revendications que porte la FNSEA ou aux mots d'ordre qui ne répondent pas tellement aux enjeux profonds. Enfin, je pense qu'il y a des tensions profondes qui travaillent la FNSEA et auxquelles il n'est pas facile de répondre. Une première ligne de tension, c'est les rapports entre céréaliers et éleveurs. Parce que je mentionnais tout à l'heure le compromis historique de partage du pouvoir. Mmh. Là, c'est un retour des céréaliers depuis une quinzaine d'années. Et il y avait des mécanismes de solidarité entre céréaliers et éleveurs qui ont tendance à glisser vers des mécanismes de concurrence. Donc la question de comment les éleveurs défendent leurs intérêts, de ce qu'on fait de l'élevage en France, est une question ouverte. Deuxièmement, la relation entre la FNSEA et les industries agroalimentaires, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis aussi de plus en plus de difficultés de la FNSEA à fidéliser les agriculteurs un peu en pointe, qui, depuis une trentaine d'années, se sont lancés dans beaucoup d'alternatives. Et la FNSEA a du mal à répondre à la variété de leurs intérêts. Je pense aux gens qui font de la vente directe, de la transformation, qui se sont engagés dans des différentes démarches de qualité, etc.
Allez, on va passer aux questions parce qu'elles sont très nombreuses. Alexandre Obeika, pour vous, ces messages. Clara nous dit, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le fait que les élections des chambres d'agriculture élisent leurs représentants selon la proportionnelle aménagée? La partie qui arrive en tête obtient systématiquement 50% des sièges. Je trouve que ça n'est pas très représentatif des votes. Et que faire pour améliorer cette représentativité des agriculteurs dans les chambres d'agriculture?
Alors, vaste question, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans la mécanique, mais il me semble que c'est une volonté de l'État d'avoir un syndicat majoritaire, et que ces mécanismes de représentation qui accordent quasiment la présidence au syndicat majoritaire le reflètent. C'est possible de faire des aménagements, hein, de changer le mode de scrutin, sans forcément passer à une proportionnelle, mais voilà, ça va sans doute être discuté, quoi.
Par la FNSEA elle-même, à votre avis, ou pas? Ou par tous les syndicats agricoles
Non, c'est principalement par les syndicats minoritaires, en particulier la coordination rurale qui a été majoritaire chez les agriculteurs dans certains départements, mais qui a quand même perdu dans certains départements la présidence de la Chambre d'agriculture.
Et oui. Ce qui fait grincer beaucoup de dents.
Oui, oui, et grâce à une alliance de circonstances entre la FNSEA et les syndicats de salariés de l'agriculture, bon, c'est difficile à faire passer auprès des agriculteurs, donc ça va sans doute changer.
Ulysse demande, est-ce qu'il n'y a pas au sein de la FNSEA une réflexion sur les aberrations du marché agricole international, des contestations du modèle ultra-libéral qui n'est pas composante et qui n'est pas possible avec les problèmes environnementaux aujourd'hui, ou alors ces questions ne sont abordées uniquement que par la Confédération paysanne?
Alors, il y a un discours de la FNSEA sur l'organisation des marchés internationaux, sur le libre-échange. Il y a des intérêts quand même assez divergents, parce que on peut dire qu'on peut être contre les accords de libre-échange avec le Mercosur, par exemple. En même temps, les filières céréalières, qui sont toujours très importantes à la FNSEA, exportent beaucoup. Et c'est important pour l'État d'exporter des céréales, parce que c'est une arme géopolitique. Donc, il y a des réflexions assez complètes. Je ne pense pas que y a un syndicat et le monopole dessus, mais c'est aussi des rapports de force.
Victoria demande quels sont les liens entre le Crédit Agricole et la FNSEA. Peut-on affirmer que cette banque a participé ou participe encore à son hégémonie?
Alors, de fait, il y a beaucoup d'administrateurs du Crédit Agricole qui sont passés par la FNSEA ou la branche jeune et les jeunes agriculteurs. En ce sens-là, la FNSEA fait en partie fonction d'écoles de formation pour les dirigeants agricoles, le Crédit Agricole et autres. Cela étant, on ne peut pas dire que la FNSEA contrôle le Crédit Agricole. C'est une organisation beaucoup, beaucoup plus puissante. Le Crédit Agricole peut apporter un soutien politique de temps en temps, mais c'est plutôt mineur.
Et puis enfin, Frédéric qui nous dit quid du discours de la FNSEA sur l'existence même de l'Office français pour la biodiversité, l'OFB. À ce propos, ils ont tourné, alors ce sont les jeunes agriculteurs, pour préciser, qui ont tourné une petite vidéo humoristique, entre guillemets, qui fait polémique en ce moment. Le terme est d'ailleurs un peu faible, tant les propos sont orientés et même font un appel au meurtre. Cette vidéo est très commentée, on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le répondeur de la Terre au carré. Quid du discours de la FNSEA là-dessus?
Moi, j'aurais tendance à lire cette virulence contre l'OFB comme une manière de gérer les tensions internes. C'est-à-dire, on tape sur les... Enfin, je disais tout à l'heure, on tape facilement sur l'État et sur l'environnement. L'OFB, c'est les deux. Donc, c'est pas étonnant que l'OFB soit prise pour cible. Cela étant, effectivement, c'est une vidéo très, très violente qui dépasse les bornes de ce que la FNSEA fait d'habitude, et je comprends que ça puisse choquer.
Voilà, violente, humoristique et raciste, aussi, pour ceux qui souhaitent la voir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, Alexandre Obeika, aujourd'hui au micro de La Terre au Carré, sur ce dossier consacré donc à la FNSEA, qui est en ce moment donc en congrès à Grenoble. Dossier préparé aujourd'hui par Joël Levert. Merci à vous.
Merci à vous.